quand j'étais enfant, Noël représentait pour moi un exercice difficile de patience. L'attente entre le soir du 24 et le matin du 25, le moment où notre famille ouvrait les cadeaux, paraissait une éternité. Ou encore, peut-être, vous pratiquez pendant le mois de décembre, vous avez un calendrier de l'Avent pour vous aider à patienter pendant tout le mois. Avant, ça veut dire arriver. Donc, effectivement, on fête l'arrivée après l'attente. Et à travers ces petites traditions de Noël, c'est aussi ce que nous célébrons dans le message biblique. Une chose que les chrétiens fêtent à Noël, c'est l'apprentissage de la patience, ou en tout cas la patience récompensée un jour. Le célèbre cantique de Noël, Minuit chrétien, capte bien cette idée. La première strophe, peuple à genoux, attente ta délivrance. Et puis à la fin, peuple debout, chante ta délivrance. Donc il y a une attente et puis une arrivée. Noël, pour nous, c'est la venue du Sauveur après des siècles d'attente retracées dans l'Ancien Testament. Mais aussi, Noël pour les chrétiens, c'est une anticipation de son retour après, nous aussi, des siècles d'attente et de patience comme nous avons prié et chanté ce matin. Je sais, dans un monde toujours speed et chargé, c'est de moins en moins sans valeur de Noël. Amazon Prime, c'est pas fait pour attendre. Ou les stories Instagram, c'est il faut vite être au courant. Les queues dans les magasins, personne n'aime attendre. Mais ce matin, j'aimerais célébrer cette qualité à travers un des personnages de Noël. Un personnage que vous connaissez peut-être un peu moins dans l'histoire de Noël. Vous connaissez certainement les bergers, vous connaissez les mages, vous connaissez Marie, vous connaissez Joseph. Vous connaissez les anges que nous avons célébrés, fêtés, tout ça la semaine dernière. Mais est-ce que vous connaissez la doyenne de Noël? Cette personne, cette doyenne de Noël, a joué un rôle important que j'aimerais souligner ce matin. Tout comme les doyennes de notre église jouent un rôle important que nous voulons célébrer. Je pense ce matin notamment à Gisèle, à Marie-Thérèse, à Paul, ses frères et sœurs fidèles qui sont là et qui nous aident à célébrer en tant que doyenne de l'église le message de Noël. Donc je vais vous lire le texte biblique ce matin, c'est en Luc chapitre 2, versets 36 à 38, où nous découvrons la doyenne de Noël. Donc, Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La beauté du récit de Noël, c'est qu'il réunit toutes sortes de personnes autour de cet enfant Jésus, en donnant à chacune un rôle important, quelle que soit sa place dans la vie. Donc autour de la crèche, autour de l'histoire de Noël, on trouve les riches et les pauvres, les mages et les bergers, par exemple. On trouve des hommes et des femmes. On trouve des juifs et des non-juifs. On trouve un bébé, c'est bien sûr le bébé Jésus, mais aussi des personnes âgées. Et Luc termine son récit de la naissance de Jésus en parlant de deux personnes âgées, Siméon d'abord, et puis Anne, cette personne très âgée. Et je trouve que Anne incarne bien une vie de patience, une vie d'attente, une vie de constance, une vie de persévérance, une vie de longanimité. Mais dans la foi, on célèbre la foi en tant que chrétien, mais dans la foi, il y a souvent, peut-être toujours, un élément de patience. Et je prie ce matin que l'exemple de Anne nous aide à mieux vivre nos attentes des délivrances. Certainement, vous attendez telle ou telle délivrance, et puis nous attendons la délivrance ultime avec le retour de Christ. que l'exemple Anne puisse nous aider à vivre ce temps d'attente pendant le temps que Dieu nous fait attendre. Combien d'années? On ne sait pas, mais Noël nous aide à vivre l'attente. Si vous attendez depuis longtemps une délivrance, peut-être un changement de situation, une réponse à vos prières, je pense qu'Anne pourrait compatir et vous aider. Alors, nous allons ce matin juste ensemble découvrir la doyenne de Noël et puis nous allons prendre à cœur ses paroles. Donc, découvrons tout d'abord la doyenne de Noël. Son parcours de vie nous interpelle, comme m'interpelle. Le texte dit qu'elle a été mariée 7 ans et puis qu'elle est âgée de 84 ans. Mais le texte original est encore plus ambigu. Ça dit simplement mariée 7 ans et veuve 84 ans. Donc peut-être elle a 84 ans, ou bien peut-être elle a été mariée pendant 7 ans et veuve pendant 84 ans. Dans ce cas-là, elle a quoi? Plus de 100 ans, elle est un centenaire. On se mariait jeune, l'âge de mariage, 7 ans de mariage, et puis 84 ans de veuvage. En tout cas, Luc souligne en verset 36 qu'elle est fort avancée en âge. Donc peut-être un centenaire, 105 ans. C'est rare, mais c'est pas impossible, on l'en trouve encore aujourd'hui. Alors déjà, si nous croyons la vérité de ce verset en Job, Job chapitre 12, verset 12, « Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence », eh bien, on fait bien de s'intéresser à Anne. Elle a certainement une sagesse à nous apporter, une intelligence à nous apporter en tant que vieillard, en tant que quelqu'un qui a une longue vie. Quand un enfant vante sa patience parce qu'il a attendu une nuit entière pour ouvrir ses cadeaux, j'étais fier de moi-même, mais c'est une chose. Mais d'entendre la doyenne de Noël louer Dieu après toutes ces années, là c'est autre chose. Pensez un peu à Anne, donc ce matin. Après 7 ans de mariage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa vie a pris un virage inattendu. Elle devient veuve. Elle a quel âge? 24 ans, 25 ans. Se retrouver veuve dans la vingtaine, c'est déjà dramatique. Et la situation d'une veuve à l'époque était encore plus précaire qu'aujourd'hui. On ne sait pas si elle avait eu des enfants, mais dans tous les cas, ça reste une situation dramatique. Le fait qu'elle se tourne vers le temple pour y vivre indique peut-être qu'elle n'en avait pas d'enfants. Ce qui est déjà une chose lourde à porter. Et si elle avait des enfants, leur père serait mort en très bas âge. Donc, quoi qu'il en soit, une situation difficile dans la vingtaine à vivre. Et vous imaginez les questions qu'elle peut se poser au fil des années. Quel avenir pour moi? Qui va prendre soin de moi? Et puis les années qui passent, bon, quand on est jeune, peut-être on peut envisager certains projets. Mais les années qui passent, et puis à un moment, elle doit se dire qu'est-ce que je peux attendre de ce que je peux attendre de la vie, qu'est-ce que je peux, à quoi je sers. Ce genre de questions aurait pu le travailler. Mais au lieu de choisir une vie de regret, une vie d'amertume, ou encore une vie de dissipation, Paul mentionne dans ses lettres que des fois, manque de cadre et de but, ces veuves pouvaient vivre dans la dissipation. Au lieu de choisir une telle voie, elle s'accroche à Dieu, elle reste près de lui, même si elle n'est pas de la tribu des Lévites, elle est plutôt de la tribu d'Asser, mais elle décide de consacrer sa vie à la prière, au service de Dieu dans le temple. A priori, à l'époque, il y avait ce cadre, on pouvait un peu se dédicacer au service du temple, et peut-être même des logements aménagés pour de telles personnes, pour prendre soin de ces veuves et puis leur permettre de vivre dans le service. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle ne quittait pas le temple jour. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et dans cet évangile selon Luc, c'est même important. Ce sont ceux qui sont dans la maison de Dieu, ceux et celles qui sont accueillis par lui, qui ont vraiment compris la foi. Et Luc va souvent célébrer les personnes qui entrent dans la maison, qui se trouvent dans la maison, qui se trouvent accueillies par Dieu, qui veulent rester près de Dieu. Et autant l'évangile commence avec tout le monde dans le temple en train de louer Dieu, autant l'évangile termine après la résurrection de Jésus avec tout le monde qui loue Dieu. Donc quelque part, l'activité d'Anne ici, c'est pour Luc celle qui a tout compris. D'ailleurs, Luc a très à cœur les veuves. Dans son récit, c'est celui qui mentionne, je pense, le plus de veuves dans toute la Bible. Et Luc veut montrer qu'elles ont toute l'attention de Dieu. La première prédication de Jésus que Luc rapporte concerne notamment une veuve. Cite un épisode dans l'Ancien Testament et c'est ça qui provoque dans son message. C'est dans Luc qu'on trouve la veuve qui met les deux petites pièces, les 2 centimes dans les offrandes, et Jésus félicite sa foi face à tous ces riches qui mettaient beaucoup, mais donc, lui célèbre la veuve. Et c'est encore Luc qui raconte cette belle histoire du fils d'une veuve, et c'est ça qui est important, c'était le fils d'une veuve que Jésus ressuscite lorsqu'il dit « Lève-toi », et bien il rend le fils à la veuve, et donc elle comprend un peu sa joie. Donc Luc déjà est attentionné envers les veuves pour montrer qu'elles ont une place particulière dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et nous pouvons nous aussi prendre ces encouragements à cœur. Parmi nous, certainement, beaucoup doivent supporter des situations qui pèsent dans le temps. Une solitude, un deuil, un parcours de vie imprévu, un célibat qui se prolonge, un veuvage. Dieu voit, Dieu le sait, Dieu a une place pour vous dans le service. Votre foi est précieuse à ses yeux. Anne nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour être touché par Dieu et il n'est jamais trop tard pour être utilisé par Dieu dans la vie des autres. Voilà, à 84 ans ou bien même à 105 ans, elle est là en train de louer Dieu et de le servir. Donc déjà, on découvre un peu plus la vie de cette doyenne de Noël, son parcours de vie, certainement un parcours d'attente, de patience, de constance. Et maintenant, nous voulons prendre à cœur ses paroles. Donc Anne, qui a déjà servi fidèlement Dieu nuit et jour pendant toutes ces années, ce jour-là, Dieu va l'utiliser tout particulièrement. Ce jour-là, c'est le jour de la présentation de Jésus. Donc Jésus a 8 jours, il est âgé de 8 jours, et donc ses parents l'amènent au temple pour cette présentation. C'est le 8e jour qu'il va recevoir son prénom et la circoncision juive. Donc ils arrivent au temple ce jour-là, Jésus est nommé, et Luc venait de rapporter le témoignage très étonnant de cet homme Siméon. Nous n'avons pas lu, mais dans les versets précédents, c'est Siméon, une personne âgée, moins âgée que Anne probablement, qui vient au temple ce jour-là. Et lui, ce qu'il dit, c'est très étonnant. Il prend le bébé dans ses bras et il dit, ici, c'est le salut de Dieu, c'est la lumière du monde, c'est la gloire d'Israël. Donc ça a dû frapper l'entourage. Je pense que Luc rapporte aussi ces détails, rappelant que dans beaucoup de cultures, ça devrait être le cas peut-être partout, que le témoignage des personnes âgées, le témoignage des doyens et des doyennes de la communauté porte beaucoup de poids. Donc quand le doyen, quand la doyenne parle, on écoute. Et donc le témoignage est encore plus fort lorsque c'est Siméon qui le rend, et maintenant Anne. Donc son témoignage vient s'ajouter à celui de Siméon, et verset 38, étant arrivée elle aussi, donc elle aussi avec Siméon, étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc elle va parler de Jésus, qui vient d'être nommé, non, quand on sait cet enfant c'est Jésus, et elle va parler de lui à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Jérusalem. C'est-à-dire, selon Anne, Jésus est la réponse pour ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. En plus, Anne, non seulement de personnage, de sa doyenneté, Anne est aussi reconnue comme prophétesse. Il y a 3 ou 4 prophétesses au fil de l'Ancien Testament. Donc, sa déclaration aussi confirme l'identité de Jésus comme Messie. Mais Luc nous laisse cette phrase qui fait réfléchir. Elle parle de Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Alors, c'est vrai que cette attente de la délivrance de Jérusalem résume les espoirs, les attentes messianiques du peuple. Si vous lisez Ésaïe, et souvent à Noël, on cite les prophéties d'Ésaïe, l'enfant nous est né, la Vierge deviendra enceinte, Emmanuel. Donc il y a des prophéties, Ésaïe remplie de prophéties messianiques, mais si vous relisez Ésaïe, beaucoup de prophéties concernent la ville de Jérusalem qui sera délivrée, qui sera restaurée. Je vous lis un petit échantillon, Ésaïe 40, ce message de consolation. Ésaïe 40 commence comme ça. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc, c'est le genre de prophétie messianique que le peuple attendait. Oui, un jour, la gloire de Dieu va apparaître et un jour, il va consoler son peuple. Mais notamment, parler au cœur de Jérusalem, la ville sera délivrée, sa servitude finie, son iniquité expiée. C'était le... ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem dans leur pensée, oui, c'est cette attente messianique. Mais alors, la question, est-ce que Anne a bien prophétisé ce jour-là? Elle dit que la solution pour la délivrance de Jérusalem, c'est cet enfant Jésus. Et aussi, si on lit la suite de l'évangile, on voit que Jésus a vécu, il est mort, et Jérusalem n'a pas été spécialement délivrée. D'ailleurs, le 2 jours après sa mort, 2 disciples discutaient entre eux, avec ce passant, et disent... Ben, il y avait cet homme-là, Jésus, il a fait beaucoup de choses, il a parlé. Et nous espérions que ce soit lui qui délivrerait Israël, commençant par sa capitale, Jérusalem. Mais ça semble ne pas avoir marché. Et puis même après, si vous reconnaissez l'histoire, après, dans les années ont suivi, et en l'an 70, Jérusalem a été complètement détruite par les armées romaines. Alors, est-ce que Jésus a délivré Jérusalem? Que vaut cette prophétie de la prophétesse Anne? Et en fait, quand on lit l'Évangile, quand on lit la Bible, Luc veut montrer que Jésus est venu apporter une délivrance bien plus grande que politique, que géopolitique. Jésus est venu d'abord pour traiter la racine du problème, qui n'est pas la géopolitique, mais le péché. Et pour cela, il est venu comme rédempteur, pas comme soldat, comme capitaine, comme général, comme politicien. Il est venu comme rédempteur. Voici le rédempteur. D'ailleurs, c'est le mot même. Peut-être ça n'apparaît pas dans votre tradition, mais... Anne parle de Jésus à tous ceux qui attendent la rédemption de Jérusalem. Pas juste une délivrance des armées romaines, mais il va falloir une rédemption, comme annoncé Ésaïe. Ton iniquité, ton péché est expié. Donc oui, Anne avait raison de parler de Jésus comme celui qui allait venir délivrer, mais celui qui est venu racheter son peuple. Et cette délivrance, nous le savons, elle n'est pas premièrement politique, elle est spirituelle, elle est éternelle, elle est ultime. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que nous attendons la paix, Mais nous savons que la vraie solution n'est pas politique. Nous attendons des cadeaux autour du sapin, mais nos vraies attentes ne sont pas matérielles. Jésus est venu nous délivrer, mais premièrement nous racheter de nos péchés. Et après, il reviendra pour achever cette délivrance dans tous les sens du terme. Donc cela nous rappelle que Jésus, lui, il est la solution à toutes nos attentes, toutes nos envies, toutes ces attentes de délivrance. Des fois, on pense que c'est le matériel qui va nous délivrer, on pense que c'est la politique qui va nous délivrer, on pense que c'est quelque chose de romantique qui va nous délivrer. Mais ceux qui attendent vraiment la délivrance, il faut écouter... Il faut prendre à cœur les paroles d'Anne, la vraie solution, c'est Jésus. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, les attentes et de paix et de bonheur dans le monde semblent liées à cette ville de Jérusalem, à son sort. Et comme cela a été déjà mentionné, nous attendons, cette année en particulier, nous attendons une solution, nous attendons une délivrance pour cette ville et cette partie du monde. Mais en tant que chrétiens, nous affirmons que Jésus est la seule solution. L'ultime délivrance de Jérusalem et la paix mondiale n'est possible que par Jésus, ce qu'il a fait à la croix, où il permet le pardon et la réconciliation, ce qu'il a fait par la résurrection, où le mal est vaincu, et ce qu'il fera par son retour où il écrira le chapitre final de l'histoire. La ville de Jérusalem aura certainement un rôle à jouer. Donc oui, Jésus est celui qui permet la délivrance de Jérusalem, la rédemption de son peuple, ce que nous avons besoin, et puis l'espérance pour un monde nouveau, un meilleur monde où la paix règne partout. La prophétie d'Anne va se réaliser. Une première partie lorsque Jésus est mort et ressuscité, et une deuxième partie lorsque il reviendra. En tout cas, pour nous, ça fait une année de plus qui s'achève. Demain soir, un Noël de plus qui sera passé. Pour certains, c'était une année de plus sans délivrance flagrante. Une maladie, un mariage difficile, une situation professionnelle qui perdure, un célibat inconfortable. Anne a vécu toutes ces années, au moins 84 ans, comme ça. Je dis aussi, c'est une année de plus à supporter le péché et les imperfections de mon propre cœur. Nous attendons cette délivrance là aussi. Mais ce matin, que le message de Noël et la venue de Jésus nous rappelle que Dieu prépare une parfaite délivrance pour ceux qui l'attendent. Donc que chaque Noël nous aide à attendre un peu plus dans la foi. Alors oui, joyeux, levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Prions. Seigneur, nous voulons rappeler ce matin, en regardant à cette doyenne, cette femme Anne, que oui, la foi comporte souvent un élément de patience, et nous te prions que tu nous aides à vivre dans la patience, à exprimer notre foi dans cette louange, ce service constant, cette attente de ta délivrance. Les années peuvent passer, on peut se décourager, que le monde, c'est les mêmes problèmes qui reviennent, les mêmes crises, les mêmes conflits. Les mêmes incapacités des politiciens à apporter des solutions. Et tout ça nous fait encore ce matin crier à toi que Jésus puisse revenir bientôt. Nous te remercions de ce qu'il est venu. C'est déjà la preuve que tu nous as pas oubliés. C'est déjà la preuve que tu nous aimes. C'est déjà la preuve que tu veux apporter une délivrance aux vrais problèmes de ce monde. Et Jésus l'a fait en venant en tant que rédempteur. Il nous a par sa mort, il nous a rachetés et nous voulons te remercier pour cette venue. Il fallait qu'il naisse dans un corps humain pour ensuite mourir sur la croix pour nous. Et maintenant, nous attendons qu'il revienne dans la gloire. Nous te prions que tu suscites en nous cette, cette patience joyeuse, avec anticipation, un peu comme les enfants peuvent vivre autour de Noël, devant les cadeaux. Nous te prions que c'est cette même attitude qui nous anime jour après jour, mois après mois, année après année. Accompagne-nous, donne-nous beaucoup de joie ce week-end, aujourd'hui, demain, et les temps des vacances, que tu sois très présent dans nos vies. Nous savons que tu n'es pas lointain, parce que tu nous as donné ta présence, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et nous te remercions pour ces grands cadeaux. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen.